Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce samedi 21 novembre. Pour vous accompagner, Bertrand Tungandamé. Au sommaire de cette édition, eh bien, comme tous les samedis, notre rubrique « Ça s'est passé », rétrospective sur un événement qui s'est passé en 21 novembre, eh bien, retour ce samedi sur l'année 1945, sortie du premier magazine féminin en France. On parlera également cinéma avec Édouard Bergeon, auteur du documentaire « Au nom de la Terre ». Et un documentaire un retour sur les difficultés d'être agriculteur aujourd'hui. Mais avant de développer cela, l'actualité de ce samedi 21 novembre. Au sommaire de cette édition, l'Australie méridionale enregistre un seul cas de Covid-19 alors que cet état du sud de l'Australie se prépare à déconfiner. Et décès de Daniel Cordier, le grand résistant et secrétaire de Jean Moulin. Et Donald Trump inaugure une nouvelle stratégie pour se maintenir au pouvoir. L'Australie méridionale a enregistré un seul cas de Covid-19 ce samedi, alors que cet état du sud de l'Australie s'apprête à lever son confinement. Le nouveau cas est un contact proche d'un cas déjà connu lié au cluster du centre commercial de Parafield au nord d'Adélaïde. Près de 5400 personnes sont liées à ce cluster et sont actuellement en quarantaine et les autorités sanitaires essayent de localiser 40 autres personnes liées à ce foyer. Le premier de l'Australie méridionale, Stephen Marshall, a confirmé la levée du confinement à 23h59 ce soir tout en soulignant que cela ne signifie pas pour autant qu'il faut lever la garde.
We are not out of the woods yet. The expert health advice that we have received is that we are still managing a very dangerous cluster. And although we are reducing those restrictions, we are still very concerned about this cluster. And there are still many people that we need to identify and put into a quarantine situation pending testing results.
Et pendant ce temps-là, le Victoria a enregistré une 22e journée consécutive sans COVID-19 ni décès du virus. Le Victoria ne compte plus qu'un seul cas de COVID-19 et un cas d'infection potentielle qui avait été dépisté hier a été déclaré négatif. Entre-temps, les autorités sanitaires du Victoria ont appelé les habitants des quartiers du sud-ouest de Melbourne à être vigilants, ce après la découverte de traces de COVID-19 dans les égouts près d'Altona, un des quartiers du sud-ouest de la capitale du Victoria. Martin Foley, le ministre de la Santé du Victoria, a enjoint les habitants de ces quartiers du sud-ouest ainsi que toute autre personne qui se serait rendue sur les lieux entre le 16 et le 18 novembre dernier de se faire dépister, surtout si ces personnes présentent des symptômes de COVID-19 aussi minimes que ces symptômes puissent être.
Could mean that there is someone in the community that we've missed. It could mean that someone has been traveling through the community and has left the virus behind. Or it could mean that the virus has been shed as pre-existing cases have, through their own processes, started to shed the virus from their body.
On reste toujours en Australie où le plus haut responsable militaire du pays a admis jeudi l'existence de preuves crédibles établissant que les forces spéciales australiennes avaient tué illégalement au moins 39 civils afghans et non combattants après la publication d'une enquête menée pendant des années. Hélène Persson, directrice de Human Rights Watch, espère que les coupables seront jugés rapidement.
Afghans have already waited many years for justice. Many of these abuses took place in 2012, 8 years ago. You know, I think we want to see this process move quickly forward to hold the perpetrators to account.
Et Abdul Ghaffar Stanikzai, un militant des droits de l'homme afghan basé à Nuruzgan, dit avoir tenté de signaler des violations des droits de l'homme commises par les troupes australiennes en 2012, mais ses appels sont restés sans suite. Il espère quant à lui que l'enquête en cours va enfin soulager les familles des victimes.
The Australia government is accepting that something was wrong and we need to fix that. So that's the biggest thing. And I feel much happier and much proud that I was part of these things.
Entre-temps, le chef des forces armées australiennes, le général Angus Campbell, a présenté ses excuses au peuple afghan pour tout acte répréhensible de la part des soldats australiens, tout en soulignant que certaines patrouilles ont fait fi de la loi, des règles ont été enfreintes, des histoires inventées, des mensonges racontés et des prisonniers tués. Daniel Cordier, grand résistant et ancien secrétaire de Jean Moulin, est mort à l'âge de 100 ans ce vendredi 20 novembre. Il était l'un des deux derniers compagnons de la Libération, un ordre créé par le général de Gaulle en 1940 en tant que chef des Français libres. Toute sa vie, Daniel Cordier œuvra pour la mémoire de Jean Moulin, n'aura de cesse un archiviste rigoureux reconnu par les historiens eux-mêmes de documenter la résistance qu'il a dépeinte au quotidien avec ses zones d'ombre et son impossible union. Emmanuel Macron a annoncé qu'un hommage national lui sera rendu. Et toujours en France, on signale que le pic de la seconde vague de Covid-19 a peut-être été franchi, selon les autorités sanitaires. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a tenu à signaler que cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut baisser la vigilance. Il a tout de même annoncé que le confinement n'est pas terminé, même si on parle de l'alléger prochainement. Le président de la République doit dévoiler des nouvelles grandes lignes du protocole sanitaire lors d'une allocution mardi prochain à 20h. Emmanuel Macron va également lever le voile sur la prochaine campagne de vaccination en France. La grande question en France en ce moment, c'est le calendrier d'ouverture des petits commerces à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Et comme chaque vendredi, des manifestants sont descendus dans la rue hier pour protester contre les restrictions liées au Covid-19 dans le Pays basque. Juliette Gerbrand de RFI signale que la mobilisation ne faiblit pas, même si le gouvernement a répondu à certaines demandes des manifestants.
SOS, c'est la ruine, ne nous laissez pas tomber. Voilà ce qu'on pouvait lire sur les pancartes du cortège. Ressous tient un café avec deux employés, il est déçu par les annonces.
S'ils veulent qu'on reste fermé, il faut une vraie compensation. On doit payer l'eau, l'électricité, la sécu, le loyer. On est loin du compte.
Ichacho, elle, tient le bar Pata Negra, elle est amère. Comme beaucoup, elle pense que la profession a fait tout ce qu'elle pouvait.
C'est pas faute d'avoir sans arrêt nettoyé, désinfecté et d'avoir fait la police pour expliquer aux gens de rester assis. On a appliqué toutes les règles qu'on nous impose et en fait, ça n'a servi à rien. C'est injuste, décevant et triste en fait.
Ce matin, à l'avant du cortège, les taxis étaient aussi venus dire leur solidarité.
Le secteur nous donnait beaucoup de travail, mais depuis que les bars et restos ont fermé, on est à l'arrêt. Il n'y a plus de vie le soir, donc les gens ne prennent plus de taxi. On a perdu plus de 70% de notre activité.
Delaira déplore le couvre-feu qui commence à 22h ici. La fermeture de la restauration a des répercussions en chaîne qui vont des entreprises de nettoyage aux petits commerces. Eux sont ouverts, mais leurs clients se font rares.
Aux États-Unis, alors que les démarches juridiques de l'équipe du président Donald Trump s'enlisent devant les tribunaux ou sont carrément à l'arrêt ou sont rejetées, Donald Trump intervient désormais directement pour persuader les élus républicains de renverser les résultats des élections du 3 novembre dernier en sa faveur. Didier Combo, essayiste et spécialiste des USA, revient sur la stratégie de Donald Trump au micro de RFI.
Il a invité à la Maison-Blanche des représentants de l'Assemblée du Michigan pour essayer de faire que les grands électeurs qui seront nommés par l'État soient des républicains qui voteront donc pour Trump. Donc c'est quelque chose de tout à fait inédit, ça ne respecterait pas le vote populaire. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui est dans la Constitution, c'est tout à fait possible. Et ce qui est possible également, c'est que la gouverneure, qui est démocrate, choisisse ses propres grands électeurs électeurs. Et il y aura donc deux séries de grands électeurs pour le même État. Et c'est au bout du compte le Congrès des États-Unis qui tranchera. Mais dans ce cas-là, la Chambre s'exprime non pas avec l'ensemble des représentants, mais s'exprime avec des représentants pour chaque État. Tous les États sont à égalité. Et si on prend les États, là, ce sont les républicains qui sont majoritaires.
Et démission hier du ministre arménien de la Défense, David Tonoyan. Cette démission intervient alors que l'Azerbaïdjan a récupéré le contrôle du district d'Agnam, cédé par les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh au terme d'un accord de fin des hostilités sous patronage russe, un accord de fin des hostilités qui a mis fin à 6 semaines de guerre. Vincent Souriau de RFI revient sur cette rétrocession d'un territoire arménien à l'Azerbaïdjan.
Agdam aujourd'hui, Kelbajar dans 5 jours et Latchin le 1er décembre. L'Azerbaïdjan récupère ses territoires situés à la lisière du Haut-Karabakh. C'était l'une des conditions prévues par l'accord de cessez-le-feu négocié sous l'égide de Moscou. Le Haut-Karabakh pourra continuer d'exister, mais amputé d'une partie de son périmètre qui est donc remis sans combattre à l'Azerbaïdjan. Le district d'Agdam, c'est un no man's land, comme l'on dit en anglais. Une ville fantôme et une banlieue inhabitée qui servait de base arrière aux soldats arméniens. Ces troupes arméniennes, avant d'abandonner les lieux hier, ont pris soin de détruire leurs installations militaires. Et c'est aussi le cas de certains habitants qui ont voulu faire table rase avant l'arrivée de la délégation azerbaïdjanaise. On a vu des gens abattre leur bétail, récolter en urgence les fruits qui poussaient dans les plantations et même parfois mettre le feu à leur domicile pour ne pas que leur maison soit occupée par l'ennemi. Il y a un véritable antagonisme, un véritable sentiment de détestation entre ces deux peuples, car dans les années 1990, c'est l'Arménie qui avait envahi ces zones et chassé la population à l'époque majoritairement azerbaïdjanaise. Aujourd'hui, l'histoire se répète en sens inverse et c'est l'Azerbaïdjan qui reprend possession de ces territoires.
Et quelques nouvelles en bref du continent africain. Eh bien, en Ouganda, le bilan des violences depuis mercredi est monté à 28 morts selon la police. Ces violences ont éclaté à Kampala après une nouvelle arrestation du populaire chanteur Bobby Wine, qui est aussi un des candidats de l'opposition à la présidentielle ougandaise de janvier 2021. Et Fatih Bachaga, le ministre libyen de l'Intérieur du gouvernement d'entente nationale, le GNA, effectue une visite de 3 jours à Paris. Arrivé le 18 novembre à Paris, Fatih Bachaga a été reçu par le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, ainsi que par son homologue, Gérald Darmanin. D'autres rencontres étaient prévues hier au ministère de la Défense. Fatih Bachaga est un poids lourd à Tripoli et l'un des acteurs clés de la scène libyenne. Il dit répondre à l'invitation de la France alors que nombreux sont ceux dans le camp de l'Ouest libyen à contester cette visite. Et les affrontements se poursuivent dans la région du Tigré en Éthiopie entre l'armée fédérale et les troupes du parti dissident tigréen, le TPLF. Hier, le gouvernement éthiopien a affirmé que ses soldats avaient encore avancé en direction de la capitale de la province, Mekele, tandis que le parti tigréen déclarait quant à lui avoir repris une ville aux troupes d'Addis Abeba. À présent, un coup d'œil météo à travers l'Australie pour ce week-end, ce samedi. Perth, 26 degrés, Adélaïde, 37, Melbourne, 26, Hobart, 21, Canberra, 29 degrés, Wollongong, 22, Sydney, 24, Newcastle, 25, Brisbane, 29, Cairns, 30 et Darwin, 35 degrés. Et un rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi. L'Australie méridionale enregistre un seul cas de Covid alors que cet État du Sud se prépare à déconfiner. Décès de Daniel Cordier, le grand résistant et secrétaire de Jean Moulin. Et Donald Trump inaugure une nouvelle stratégie pour se maintenir au pouvoir. C'est tout pour l'actualité. Après la pause, le magazine des sports. Pour l'actualité sportive de ce samedi, on commence avec le football où se jouaient tôt ce matin 2 matchs comptant pour la 11e journée de la Ligue 1. Dans le match qui se jouait ce matin, Rennes s'est incliné 1-0 contre Bordeaux et Monaco a battu le PSG 3-2. Et pour la petite histoire, cela faisait plus de 5 ans que le PSG n'avait pas perdu un match en menant des 2 buts. La dernière fois, c'était le 10 janvier 2015 à Bastia, où le score final avait été 2-4. Et au tableau d'autres matchs comptant pour la 11e semaine de la Ligue 1, ce week-end, Brest rencontre Saint-Étienne, Nantes reçoit Metz, Reims reçoit Nîmes et Dijon reçoit Lens. Football, mais en Australie cette fois-ci, eh bien, le Sydney FC est en difficulté dans l'Asian Champions League après sa défaite jeudi soir contre l'équipe chinoise de Shanghai SIPG. Victoire de 1 des Chinois contre les champions d'Australie dans un match qui s'est joué au Qatar. Pour la petite histoire, il faut le dire, le côté chinois avait aligné un joueur australien, Aaron Moy, un joueur de Socceroos. Cette défaite augure mal des perspectives de Sydney FC qui du coup se trouve au bas du groupe H, avec 3 rencontres pour se qualifier au prochain tour de l'Asian Champions League. Et la FIFA a introduit de nouvelles règles pour protéger le droit des footballeuses professionnelles. Parmi les nouveautés, les footballeuses auront droit à 14 semaines de congé maternité payées aux 2/3 de leur salaire. Tout club qui licencierait une joueuse pour cause de grossesse risque des grosses amendes, en plus de payer une compensation à la joueuse licenciée indûment. Victor Montagliani, responsable des parties prenantes à la FIFA, souligne qu'il s'agit là de mesures planchers, libres donc au club d'offrir des conditions plus avantageuses s'il le désire.
All in all, this regulatory framework really, at the end of the day, underpins conditions that our female players in the world now can enjoy a long and healthy career. And this supports them not only as footballers, but it also supports them as parents.
Et toujours au football, mais toujours pas sur la pelouse, eh bien, Qatar Airways, partenaire officiel de la FIFA, a dévoilé hier un Boeing 777 repeint aux couleurs du Mondial 2022. Le vol inaugural de ce Boeing customisé est programmé pour ce samedi, 2 ans jour pour jour, avant le coup d'envoi du Mondial. Et ce vol reliera symboliquement Doha, la capitale du Qatar, à Zurich, où se trouve le siège de la FIFA. Qatar Airways a indiqué dans un communiqué que bientôt, d'autres appareils porteront les couleurs de la Coupe du Monde 2022 et seront déployés sur plusieurs routes du réseau de la compagnie aérienne Qatari. Et la justice sud-coréenne a décidé d'indemniser des fans après l'absence de Cristiano Ronaldo. Le tribunal sud-coréen a ordonné hier à un promoteur local d'indemniser les fans qui n'avaient pas vu la star de la Juventus Cristiano Ronaldo en action lors d'un match amical à Séoul en 2019. Malgré des appels incessants de la part des 65 000 spectateurs venus remplir un stade de Séoul en juillet 2019, bien Cristiano Ronaldo, la star de la Juve, n'avait pas foulé la pelouse lors d'une confrontation entre la Juve et une équipe All-Star de la K-League, le championnat sud-coréen. Au tennis, Nick Kyrgios se prépare à accueillir un certain nombre de joueurs à Canberra dans le cadre d'un camp d'entraînement qu'il organise et qui durera 1 mois, ce pour se mettre en forme pour l'Open d'Australie. Thanasi Kokkinakis et Jordan Thompson y sont attendus et les joueurs internationaux qui le souhaiteraient sont également les bienvenus, a déclaré Nick Kyrgios. Et un mot de cyclisme, Roland Fangil, l'organisateur de l'Étoile des Bessèges depuis sa création en 1971, est décédé ce jeudi à l'âge de 80 ans du Covid-19. Au début des années 60, ce Lorrain s'était installé à Bessèges dans le Gard où il avait fondé une entreprise de meubles très florissante. Roland Fangil s'est éteint 1 an après son grand ami Raymond Poulidor qui avait participé à la première édition de l'Étoile des Bessèges et avait toujours été présent à ce tour emblématique du Gard. Et en Formule 1, après la dernière manche de la saison, se tiendra une journée d'essai sur le circuit d'Abu Dhabi le 15 décembre prochain. Et à cette occasion, les écuries auront la possibilité de convier leur monoplace 2020 à 1 ou 2 jeunes pilotes. L'écurie Ferrari a choisi le russe Robert Schwarzman, membre de la Ferrari Driver Academy et actuel 5e du championnat de Formule 2 avant la dernière manche à Bahreïn. L'autre monoplace sera entre les mains de l'Italien Antonio Fuoco, ancien pilote de GP3 et de F2 et actuel pilote officiel du simulateur Ferrari. Et Lewis Hamilton a été élu personnalité britannique noire la plus influente. Ce sur la liste Power List. La Power List est au Royaume-Uni un classement qui honore les personnages d'origine africaine, caribéenne ou afro-américaine les plus puissantes en Grande-Bretagne. Et en tête de cette liste est arrivé Lewis Hamilton, couronné dimanche dernier sur le circuit d'Istanbul Park pour la 7e fois champion du monde. Toutefois, s'il a été honoré de cette première place dans la Power List, c'est pour son engagement dans le mouvement Black Lives Matter, sa lutte contre le racisme et sa volonté d'accroître la diversité dans le sport automobile. C'est tout pour ce petit tour d'horizon du monde sportif ces derniers jours, suite du programme après la pause. C'était International Makossa par Bafang sur les antennes de la radio SPS. Donc pour ce samedi avec Bertrand Tungandame. Et tout de suite, après une très courte pause, on va passer à notre rubrique hebdomadaire. Ça se passait, retour sur un événement qui s'est passé en 21 novembre. C'était le lancement du premier magazine féminin en France. C'était en 1945.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous sommes le 21 novembre. Notre rétrospective cette semaine nous emmène en 1945. Le 21 novembre, donc 1945, sortait en kiosque en France le premier numéro du magazine Elle. Elle, fondé par Hélène Lazareff et Marcel Auclair. L'hebdomadaire existe toujours aujourd'hui et il se vend dans des dizaines et des dizaines de pays. C'est notre rétrospective du jour.
Elle, rien qu'elle, toujours elle, encore elle, à l'âge où d'autres prennent leur retraite, elle n'a pas pris une ride. Hélène Lazareff a une idée en tête, créer un magazine féminin à l'image de ce qui se fait aux USA. Elle, mélange utile et futile, les recettes de cuisine, la mode, les questions de société.
Les métiers féminins, je crois, changeront. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui, dans 20 ans, seront portés à disparaître. Par exemple, il y a énormément de secrétaires en France. Bien, le secrétariat, petit à petit, va se rétrécir parce que il y aura une machine pour le patron qui dictera les lettres et puis qui les fera taper par une autre machine qui déchiffrera ces lettres.
1970, elle suit toujours la mode, mais les droits des femmes, le divorce, l'avortement font irruption à la conférence de rédaction.
Nous ne faisons pas de politique, mais nous faisons en tout cas de la sociologie et nous avons fait pas mal de choses sérieuses aussi.
Le magazine créera même les états généraux de la femme. Années 80, c'est le règne des top modèles stars en couverture de Elle, Claudia, Estelle, Cindy. Et la femme, elle, a-t-elle changé ?
Dans les années 60, il y avait une silhouette androgyne, très Courrèges Carbin, qui a été incarnée par des mannequins très connus et qui fixait une norme. Les années 70 ont été des années plus expressives et plus de liberté, mais qui étaient aussi quelque part normées. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce genre de demande.
Gamma qui pleure et Elle qui rit de l'hebdomadaire féminin avec notamment ce numéro spécial et vous le voyez, ce très très bel album de 464 pages aux éditions Philippe Aki. Un album qui retrace l'histoire de cet hebdomadaire fondé l'année même où le droit de vote a été accordé aux femmes en France, 45, et qui a accompagné donc tout leur combat. Actuellement, Elle touche chaque semaine 2 400 000 personnes, dont près de 20% de lecteurs.
Elle est devenue un empire. C'est-à-dire qu'il y a des publications de Elle dans tous les pays du monde.
À peu près, oui, le dernier en date étant la Grèce, où j'en étais la semaine dernière, puis nous avons la Chine, Shanghai.
Il y a des versions en arabe,
tout,
il y a des versions...
Tout tourne à Japon, je ne sais pas où on ne sort pas.
Qu'est-ce qui explique cette fascination ?
Je crois justement c'est cette femme un peu leader et occupée par son ego, mais aussi par son alter ego, enfin qui va très 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 en avant, qui boule un petit peu les choses et toutes les autres femmes le sentent. Puis maintenant, l'Europe est là demain matin. Je crois qu'on a toutes les Européennes accrochées à...
Est-ce qu'il y a un Elle en Angleterre ?
Ah ben bien sûr, à Buckingham, oui, absolument.
Peter Knapp fait exploser le chemin de fer, les codes et la maquette du magazine Elle. Une liberté totale sous l'impulsion d'Hélène Gordon Lazareff, élevée, elle, à l'énergie des grands magazines américains.
Hélène Lazareff voulait faire à Perse Bazar, mais pour tout le monde. Elle nous demandait de trouver des mannequins qui étaient souriantes, qui étaient sympathiques, qui bougeaient facilement. Elle voulait que ce soit des femmes.
Pas des mannequins cabine de haute couture.
Elle voulait une libération. Ça veut dire, on enlevait les gants, on enlevait les chapeaux, on marchait même avec les chaussures à la main dans la rue.
Les premières photos de jeunes femmes portant pantalon n'apparaissent que timidement en 1965. Les nouveaux comportements induisent de nouvelles relations, de couples.
Un des slogans de Hélène Lazareff, je pense que c'était le journal de la femme que les hommes lisent.
Il y a quand même beaucoup de femmes qui ont des vocations pour certains métiers ou certaines activités ou pour certains arts. Maintenant, je crois qu'il existe souvent des femmes qui font des métiers pour gagner leur vie et qui ont en elles des possibilités qu'elles soupçonnent ou qu'elles ne soupçonnent pas et qui n'ont pas l'occasion de fleurir. Les métiers typiquement féminins qui sont une espèce de vocation, mettons la couture. En ce moment, il y a beaucoup d'hommes qui sont couturiers, mais il est évident qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui sentent qu'elles peuvent faire aussi bien ou mieux que les hommes.
Elle a la légèreté de la frivolité.
Éclatante, pleine de vie.
Très spontanée, très naturelle.
Furieusement indépendante.
Elle a l'ironie élégante.
Des femmes créatrices d'autre chose que d'un enfant, est-ce possible?
Je suis très fière de voter.
Et elle n'a peur de rien.
On va pour l'égalité.
L'émancipation des femmes, bouger les consciences,
donner l'assurance aux femmes de se battre.
C'est la pilule.
C'était pas du tout cuit, quoi. Le super orgasme.
Ça n'est pas vulgaire.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'était Joséphine Parra Volo. Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français sur les antennes de la radio SBS. Bertrand Tungandamé pour vous accompagner. Mais tout de suite, nous allons passer à un entretien entre Christophe Mallet et Édouard Bergeon, auteur du film documentaire Au nom de la terre.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui dans le podcast l'émission en français sur Radio SBS, Édouard Bergeron. On va parler de son film. Bonjour.
Oh là là, ça commence mal.
Pourquoi?
Bah, il y a une petite erreur sur mon nom là.
J'ai dit quoi? J'ai dit Bergeron.
Ah non, il y avait un R en trop, mais comme beaucoup, mais c'est pas grave.
Ah d'accord, alors comment on dit? Parce que moi, on m'a donné Bergeron et j'ai cru comprendre Bergeron.
Bah non, c'est... vous n'êtes pas Christophe Maillet?
Non, c'est vrai.
Voilà, je suis Édouard Bergeron.
Ok, bah bonjour.
Bonjour.
j'ai eu la chance de voir votre film hier, j'ai vraiment super apprécié. Et parlez-nous un petit peu de ce film, parce que c'est vraiment un film très proche de votre cœur, bien entendu.
Ouais, c'est dur d'attaquer parce que on peut parler de beaucoup de choses puisque c'était pas prévu que je fasse du cinéma. J'ai grandi dans une ferme vers Poitiers, dans la Vienne, et mes grands-parents étaient agriculteurs des deux côtés, mon père, et puis il était peut-être question que je reprenne la ferme moi si les événements avaient fait que tout s'était bien passé. En 99, j'ai perdu mon père qui a mis fin à ses jours, comme malheureusement beaucoup trop d'agriculteurs en France. Et il a fallu être là pour ma mère, pour continuer. Et puis, je crois que je me suis éloigné du métier d'agriculteur en voulant raconter des histoires, en devenant journaliste comme vous d'abord. Je suis monté à Paris en 2005 pour bosser au JT de France 2, puis après faire du magazine, du documentaire. Et en 2010-2011, je fais un documentaire qui s'appelle « Les fils de la terre » qui raconte l'histoire d'un producteur de lait qui est endetté, qui va pas bien physiquement, psychologiquement. Et en parallèle, je raconte déjà l'histoire de ma famille en sortant les photos de famille et en racontant la difficulté d'être agriculteur aujourd'hui. Ce documentaire fait parler de lui, est plusieurs fois diffusé sur France 2, devient une pièce de théâtre qu'on adapte à Avignon au festival. Et un jour, ce documentaire tombe sur le bureau d'un producteur de cinéma incroyable, Christophe Rossignon, qui est lui-même fils et frère d'agriculteur, qui est bouleversé par ce documentaire et qui prend son téléphone et qui m'appelle. Et c'est assez dingue parce que on déjeune ensemble et à la fin du déjeuner on se dit qu'ensemble on fera un film ensemble, un film de cinéma. Et moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai jamais dirigé de comédien. Et Christophe Rossignon, qui a produit La Haine, L'Amour est dans le Pré, et plein d'autres super beaux films, les films de Brisé, bah, me dit qu'on va partir ensemble. Et puis, on commence à écrire avec un scénariste, et puis un deuxième. Et puis Guillaume Canet rentre dans l'aventure de la même manière que Christophe Rossignon, en tombant sur le documentaire en rediff sur France 2, bouleversé par le documentaire.
Il y a une petite anecdote là-dessus. Je crois que Guillaume Canet avait vu le documentaire et avait contacté justement votre producteur qui sans le savoir.
Ils tournaient ensemble parce que Guillaume et Christophe Rossignon ont fait pas mal de films ensemble. Joyeux Noël, Jeux d'enfants quand ils tournent avec Marion Cotillard, l'affaire Farwell, et là ils tournent Mon Garçon ensemble. Et à ce moment-là, Guillaume est à l'hôtel pendant le tournage et tombe sur mon documentaire en rediff à minuit et demi. Et il est tellement bouleversé, Guillaume, qu'il souhaite en faire un film, mais comme réalisateur lui-même. Et il en parle le lendemain matin à mon producteur qui est là, et forcément un lien fort à l'agriculture, Christophe Rossignon. Donc il dit, il faut que tu produises ce film qui est incroyable. Et il se marre, mon producteur, et il lui dit, Guillaume, le film dont tu parles, je vais le produire, le scénario est écrit et c'est le réalisateur du documentaire qui va le réaliser. Oh,
d'accord.
Alors là, il est un peu déçu, hein, mais un Guillaume Canet, il a un instinct qui revient vite. Qui va jouer le rôle principal? Ben, à toi, Guillaume.
Voilà. Alors, parlons un petit peu du film. Guillaume, c'est Pierre dans le film. Et Pierre, c'est votre père, Christian.
C'est inspiré de mon père parce que la réalité est toujours pire que la fiction. Donc, j'ai mis quelques ingrédients de la réalité qui sont déjà assez importants.
À le savoir, c'est dur. Parce que le film est dur quand même.
Il est beau parce que c'est un hommage à la terre, à la campagne, à la vie, moi, que j'ai vécu à la ferme. Les balades à vélo, aller en boîte en mobylette, la liberté. Faire une piscine en bottes de paille l'été au milieu de la ferme et faire venir les copains et les copines, les premiers émois, les premiers amours, tout en conduisant le tracteur, la moissonneuse. Enfin, on sent qu'il y a de l'amour et de la vie hein, dans ce film. Mais oui, il y a une partie plus sombre, plus difficile.
Alors justement, la vie d'agriculteur, parce que ce que vous montrez bien dans ce film, c'est la différence entre l'agriculture d'avant et puis le passage à l'agriculture moderne et le fait qu'en fait, avec Rufus, donc votre grand-père dans l'histoire, ça colle pas vraiment avec votre père, parce que c'est deux mondes différents.
Oui et non, parce qu'en fait, s'est lancé dans l'agriculture intensive, ce sont justement les gars de la génération de mon grand-père. Dans les 30 Glorieuses, on se lance dans la mécanisation, la chimie, parce que la société le demande, les consommateurs veulent manger pas cher, les agriculteurs, il y en a de moins en moins, il y a des surfaces qui augmentent. Et moi, c'est mon grand-père hein, qui se lance à fond dans la mécanisation, la chimie. Sauf qu'à l'époque, on gagne de l'argent. Et après, au tournant des années 90, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a une mondialisation terrible. Et les agriculteurs ne font pas la facture de ce qu'ils produisent. Il faut bien s'en rendre compte. Et ils sont soumis aux lois du marché. Ils ont le droit de produire à perte. C'est quand même la seule profession où on a le droit de produire à perte. Et en plus, on produit, on travaille entre le ciel et la terre. Donc, on est hyper vulnérable. Face à la météo, en ce moment, les éleveurs essuient la troisième année de suite une sécheresse où l'été, il n'y a plus rien dans les champs pour les animaux, par exemple. Ça, faut s'en rendre compte. On s'en rend compte en ville qu'il fait chaud, mais à la campagne, c'est compliqué. Ouais, donc, il n'y a pas de jugement dans mon film. C'était mieux dans la génération de mon grand-père ou de mon père. C'est qu'à un moment donné, oui, les deux générations ne se comprennent plus. Voilà. Et ça, c'est ce que je montre. La transmission, le grand-père, le père, le fils. Le fils qui est incarné par Anthony Bajon, qui est exceptionnel aussi.
Il y a aussi, techniquement, la ferme en elle-même. Pour vous, ça a été important d'avoir un lieu qui soit, vrai, réel, parce que j'ai cru voir un documentaire où il y avait la famille qui habitait, qui est propriétaire de cette ferme, qui a eu d'ailleurs un private viewing à la fin, parce qu'ils vous ont accueilli pendant toute la durée du film.
Ah oui, c'était important. Le décor était primordial. On trouve cette ferme 6 semaines seulement avant le début du tournage. Tour de force, hein. On avait trouvé une ferme un peu par défaut et celle-ci, c'est le régisseur qui la trouve. C'est la ferme du scénario. Elle est belle de partout, on peut la filmer de tous les côtés. Elle est en haut d'une colline, elle domine une vallée. On est en Mayenne, dans les Alpes Mancelles. C'est pas là où j'ai grandi, mais ça reste l'ouest de la France. Et cette ferme est vide. Les agriculteurs qui l'ont viennent de la racheter pour leur installer leur fiche. Eux, ils ont leur propre ferme à 5 km. Donc, c'est pratique, en fait. Il n'y a pas de bruit ou d'activité de ferme comme la traite des vaches le matin. Elle est vide. La maison est vide. C'est un décor. Et il y a même un bâtiment au milieu de cette ferme, qui est une ancienne stabulation, qui est moitié, avec le toit moitié écroulé. Et dans, sans dévoiler le film, il y a un incendie dans le film. Et on cherchait un endroit où faire brûler ce bâtiment. Et on leur a demandé si on pouvait le remonter, ce bâtiment, pour le faire brûler. Ils disaient, bah, allez-y. Moi, je cherche, ouais. Je voulais l'enlever. Donc, le supprimer. Donc, tout était réuni, en fait, pour que ce film se tourne ici. Et puis, on a tourné en été et en hiver sur deux périodes, en 40 jours, deux fois 20 jours. On a eu tous les temps, même de la neige l'hiver. Donc, franchement, je pense qu'il y avait mon père bossait depuis là-haut et nous a fait ce qu'il fallait, quand il fallait.
Absolument, ouais. La relation Rufus-Guillaume Canet, à l'écran, elle est splendide. Ils se connaissaient avant, comment s'est passé?
Oui, ils se connaissaient, ils se respectaient, mais après, au gré de la vie, ils n'avaient peut-être pas forcément travaillé ensemble, mais là, ça a été des moments très forts, des joutes de comédiens. On le voit quand on est au petit déjeuner, qu'ils mangent tous les deux ensemble. C'est une séquence une scène qui fait presque 2 minutes. J'ai voulu la filmer en un plan fixe, sans plan de coupe. Et ça les challenge, les comédiens. Il faut que ça soit juste, que tout sonne juste, dans le bon tempo, à la demi-seconde près. Et on a assisté à des scènes vraiment fortes. Et je trouve que ça marchait bien, quoi. Et Rufus, en un regard, il dit tout, quoi. Cette scène à table avec le poulet, là, où son père, son fils vient, Guillaume vient lui demander de l'amour, en fait, de l'aide, et lui, il lui parle de la guerre et du vieux temps, quoi. C'est là qu'on comprend que les deux générations se comprennent plus, pour le coup.
Ouais, et puis, à l'endroit aussi où il s'engueule à propos de l'argent, où il y a les poulets. C'est une scène qui est incroyable aussi, ça.
Ouais, on tourne dans un bâtiment de plus de 10 000 poulets pendant 2 jours, il fait 30-35 degrés. C'est pas simple. Ouais. C'est une scène qui fait 3 minutes 30.
Même au niveau olfactif?
Ouais, ça sent l'ammoniaque, mais après, ils étaient calmes, les poulets, on est resté sur un bout du bâtiment, et ça fait un décor, je voulais ce décor, c'est assez beau, en fait, comme décor, et voilà, c'est ça la réalité aussi.
Ouais, sur le thème en lui-même, on parle un peu du suicide, dans cette interview, il y a entre 200 et 300 agriculteurs qui se...
Un par jour.
Ouais, c'est un par jour, voilà, c'est incroyable comme chiffre.
Ouais, c'est trop, c'est impressionnant, c'est... Mais je suis hyper heureux qu'on ait pu mettre sur les écrans de France ce thème, ce tabou dont on parlait sûrement peu, un peu dans les médias, parce que moi j'en faisais des reportages, des documentaires régulièrement depuis 10 ans, certains autres aussi. Mais là, ce film a poussé les lignes politiques aussi. On est allé montrer ce film à l'Élysée avec le président Macron, où j'ai amené les agriculteurs, où on a travaillé. On l'a emmené au Sénat, à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, et une mission d'un député, Olivier Damézin, a été déclenchée suite au film sur la prévention et le mal-être des agriculteurs. Donc là, il doit remettre son rapport à Jean Castex bientôt. Et moi, j'ai suivi aussi ça, qui démontre. Et ce rapport, j'espère qu'il va faire bouger les choses. Et il met les pieds dans le plat sur le manque d'humanité dans des rouages agricoles entre les organisations, sur des trucs qui marchent pas. Et puis les agriculteurs se sont reconnus et se sont sentis fiers. Les ruraux sont allés voir ce film. Le film n'a pas marché à Paris, par exemple. Enfin, très peu.
Ah d'accord, c'était une de mes questions, en fait, savoir où ça avait le mieux marché.
2 millions d'entrées, 116 000 à Paris seulement. C'est incroyable, c'est un coefficient 20, en fait. C'est une entrée à Paris, 20 en région. Ça montre une rupture entre les centres et la ruralité. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne, une plateforme digitale, là, il y a 7 mois, qui s'appelle cultivons-nous.tv. C'est une sorte de Netflix de la Terre, où je mets des documentaires sur l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. Où justement, dans cette boîte à outils, j'espère qu'on viendra chercher de quoi comprendre mieux la ruralité et l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette rupture-là qui fait beaucoup de mal, en tout cas, aux agriculteurs. Ils se sentent assez déconsidérés. On parle d'agribashing. Et en fait, aujourd'hui, on entend que dans les médias, on entend le bio, chimie, pesticides. On est dans l'écologie punitive. Et c'est pas comme ça qu'on va résoudre et réparer ces liens. Mais il faut aimer nos agriculteurs, il faut comprendre ce qu'ils font. Moi, je pense que ça viendra par les gamins, hein, l'éducation alimentaire, remettre de la terre dans les écoles, réapprendre à manger, d'où vient le produit, en circuit court, de saison. Le dos veut rien dire, en fait. Il faut juste revenir à quelque chose de plus humain dans un système mondialisé.
C'est vrai que manger des avocats bio du chi...
Je sais pas en quoi ils sont bio. Hein. Ou faire venir des fleurs d'Australie pour pomper la nappe et après voir qu'il y a des incendies de fou, moi, je comprends pas, en fait.
C'est clair. En tout cas, c'est un très beau film. Je le dis où en vrai, hein, je sais pas parce que vous êtes là.
Merci.
Donc c'est un vraiment bol d'air, je veux dire, une ouverture d'esprit. Surtout quand on est en Australie, qu'on est français et que bon, on entend parler bien sûr de ces problèmes, mais on est peut-être beaucoup moins exposé à ça. Ça donne vraiment une ouverture d'esprit vers ce film, c'est super. Il démarre en Australie cette semaine. Donc c'est vraiment une opportunité de voir justement ce qui se passe en France et en Europe.
Et partout dans le monde, parce que toute l'agriculture mondiale est sponsorisée en fait. La japonaise, l'américaine, encore plus qu'en France. Aujourd'hui, on aide l'agriculture pour que les consommateurs mangent moins cher. Donc peut-être que tous, il faut qu'on fasse tous des petits efforts pour à un moment donné manger ce qu'on produit plus localement.
Voilà. Olivier Bergeon, merci.
Édouard Bergeon. Donc voilà.
Je l'ai fait exprès.
C'est bien.
Édouard Bergeon, merci.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'était l'arrière saison par Blanca. C'est à présent, je vous propose l'extrait d'une conversation que j'ai eue la semaine passée avec Gracieuse Ama, qui anime en ce moment même, dans le cadre du festival Fringe de Melbourne, des ateliers de musique, de danse et de culture africaine qui nous vient directement du Bénin, tout particulièrement. Eh bien, cet après-midi, peu après donc la fin de ce programme, commence la cérémonie de clôture et elle promet d'être détonnante, comme vous allez l'entendre.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Ça promet de détonner fort. J'ai vu les publicités donc, de ce festival. Ils disent Kwabo va vous sortir de la morosité ambiante. Donc.
Ça, c'est sûr. C'est toujours garder l'esprit positif dans la diversité, quoi qu'il se passe. Parce que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Ma philosophie de la culture africaine et de la danse africaine, c'est que la danse africaine, surtout moderne, est utilisé comme un médium ou comme un moyen de faire face à l'adversité et aux challenges et d'unir une nation qui subit les mêmes catastrophes ou les mêmes conditions qui peuvent être difficiles et de les garder positifs, d'avoir un esprit positif et de toujours aller de l'avant. Parce que, après tout, une fois qu'on a une bonne motivation et la mentalité qu'il faut, on peut surmonter tous nos problèmes. Mais il faut avoir un esprit et un mental positif.
Sur le programme du festival, j'ai vu que votre participation est divisée en plusieurs composantes. Vous avez Kwabo Mosaïque, Kwabo Flash Dance, Flash Mob Dance, il y a Afro Dance and Storytelling, il y a plusieurs composantes. Mais est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots les différents aspects de ces différentes formes de performance?
Le festival offre trois types de workshops, d'activités, donc danse, art visuel et l'écriture de poésie ou de slam pour pouvoir le réciter à l'oral.
Ouais.
Et le but de chacun de ces workshops ou de ces sessions est de créer une contribution qui va permettre de créer Kwabo Mosaïque. Donc Kwabo Mosaïque, c'est une plateforme visuelle qui va réunir toutes les contributions de tous les participants et qui va honorer tous les participants en montrant une animation à l'écran d'un participant qui aura fait le workshop de danse ou d'un autre participant qui aura fait le workshop d'écriture de poèmes et de slam. Et donc du coup c'est une animation pour montrer que on forme tous ensemble quelque chose de magnifique et quelque chose de beau. Tout le monde a une part et tout le monde a une place à jouer et une place à prendre.
Et c'était Gracieuse Ama, donc un extrait de ma conversation avec Gracieuse Ama la semaine dernière, avant de commencer ses ateliers de musique et de danse africaine dans le cadre de Melbourne Fringe Festival. Et ce festival se clôture cet après-midi. Peu après le programme, eh bien, mettez vos chaussures de danse et suivez le programme en ligne. Ça va vous détendre et vous enlever la morosité ambiante. Un rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi, l'Australie méridionale enregistre un seul cas de COVID-19 alors que cet état du sud de l'Australie se prépare à déconfiner. Et décès de Daniel Cordier, le grand résistant et secrétaire de Jean Moulin. Et Donald Trump inaugure une nouvelle stratégie pour se maintenir au pouvoir. C'est tout pour ce samedi. Merci de votre compagnie. Votre programme vous sera présenté, votre prochain programme en français vous sera présenté demain entre 13 et 14 heures et vous sera présenté par Jean-Noël Ducasse. Merci encore une fois pour votre compagnie aujourd'hui. Bon après-midi et à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.